Radio Kapi. Oh, Kapi.
Babel Pongo Massimango pour les journaux.
Bonjour. Une nouvelle attaque des présumés ADF contre les FRDC repoussée ce matin à Mabopou. C'est dans la région de Beni. Le porte-parole du secteur opérationnel Condor parle de deux assaillants tués. Dans l'actualité aussi, la démission hier du directeur du cabinet du Premier ministre, Michel Somoué. Une démission qui intervient après son altercation avec le conseiller technique spécial du chef du gouvernement. Les attentes des habitants du Nord qui voient leur éventuelle prise en compte dans les discussions qui viennent de démarrer pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO sont à suivre dans la seconde partie de ce journal. Ce sera dans le dossier. Ce journal part du Nord Kivu. Les FRDC ont repoussé ce matin une nouvelle attaque des présumés ADF à Mabopou. C'est une zone située dans le triangle de la mort entre les localités de Mbao, Kamango et Eringeti, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, les assaillants tentaient de reprendre le contrôle de leur ancien bastion, désormais sous contrôle des FRDC, et où se trouveraient des carrières de mines. D'après le capitaine Makazukai, deux assaillants ont été tués. Il rapporte d'autres détails au micro de Martial Papi Mukeba.
Dans le territoire de Beni, plus précisément dans le triangle dit de la mort, nos militaires qui sont basés à Mapobu ont été attaqués par un groupe de l'ennemi, ADF. Cette attaque a été efficacement repoussée. La fouille de la zone de combat se poursuit, mais déjà nous avons vu deux corps des ADF et nous avons récupéré quatre armes de type AK-47 et une radio Motorola. Nous pensons que l'ennemi regrette d'avoir perdu ce site et peut-être c'est pour cela qu'il essaye de venir attaquer cette position. On a appelé Mapobu carrière et je pense que effectivement il y aurait une carrière de mine dans cette partie. C'est peut-être pour cela que l'ennemi essaye de revenir là-bas, mais le travail se fait très bien déjà pour consolider cette position.
Le capitaine Makazukai, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord. Nous restons en Kivu. Les FRDC se déploient cette semaine déjà dans la chefferie de Bouito. Nous sommes dans le nord-ouest du territoire de Rutshuru, à plus de 150 km de Goma. C'est pour des opérations qui vont démarrer incessamment contre les groupes armés qui insécurisent cette région et alimenteraient les conflits intercommunautaires. Les représentants des communautés locales de Bouito ainsi que les autorités coutumières qui prennent part depuis 3 jours au dialogue social de Kanyabayonga proposent une présence permanente et FRDC comme solution aux conflits sociaux armés dans le Bouito. Des précisions de Gisèle Cage qui se trouve dans la région.
Après l'attaque de groupes armés, l'armée devra consolider ses positions sur l'ensemble de la chefferie de Bouito, ont proposé les participants au dialogue de Kanyabayonga. Ceci permettra de réduire les tensions entre les communautés alimentées par des groupes armés d'obédience ethnique. D'après eux, l'armée, après chaque opération de traque, s'est retirée de Bouito sans consolider ses arrières, ce qui donne libre champ aux groupes armés de réoccuper le terrain. Jéris Kajibwami, directeur des cabinets du ministre provincial de l'administration du territoire du Nord Kivu, pense que cette situation pourra être corrigée.
Il y a peu, le gouverneur avait annoncé l'arrivée des troupes en renfort parce qu'il y a aussi un problème d'effectifs des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces troupes sont aujourd'hui à Nyanzale. Je crois fermement que si les forces armées traquent et qu'ils restaient, et que nous-mêmes, comme autorité civile, nous nous mettions à la tâche pour sensibiliser la population à ne plus verser dans cette confrontation, je crois qu'on peut espérer que la paix va revenir dans le Bouito et dans le sud de Lubero.
Durant les 3 ans des conflits interethniques dans le Bouito, l'ONU a enregistré des centaines de morts et des maisons incendiées et au moins 300 000 déplacés, selon un représentant du gouverneur dans la région. De Kanyabayonga, Gisèle Cage, Radio Kapi.
Et dans l'Ituri, les femmes rurales déplacées de Djougou vivent dans des conditions exécrables à Bounia. Elles sont regroupées au site de l'hôpital général, dépourvues de tout, vivant loin de leur champ. Elles ne se sentent pas concernées par le thème national de la journée de droits des femmes pour transformer leur vie. José Deschartes Minga les a visitées dans ce site.
Les Congolais qui ont fui la guerre dans le territoire de Djougou vivent dans des conditions infrahumaines au site des déplacés de l'hôpital général. La majorité est constituée des femmes et des enfants. Ces mères passent nuit à la belle étoile. D'autres dans des cabanes de fortune ont assez pêle-mêle comme des poules. Le pasteur Ignace Bingui, un volontaire qui les encadre, en témoigne.
Elles sont dans les petites tentes. Avec le soleil, il y a la chaleur. Avec la nuit, il y a le froid. 100% de femmes sont des femmes qui viennent du milieu rural. Elles sont bloquées à tout, donc ils ne peuvent pas aller au champ, donc ils sont maintenant dans une vie de dépendance.
Ces milliers de femmes rurales, éloignées de leur terre, ne peuvent pas être utiles pour transformer la vie. L'une d'elles, venue du village de Kwangaza, exprime son regret.
Nous sommes le 8 mars, mais nous vivons dans la misère. Moi, je viens de Kwangaza. Nous avons fui les massacres. Nous avons vu beaucoup de cadavres. C'est ainsi que nous avons fui. Moi, j'avais mes champs. J'ai laissé mes pommes de terre prêtes à être récoltées. Mais j'ai tout laissé. J'ai tout abandonné.
Ces paysannes portent des blessures dans leur corps. Victimes d'un conflit qui n'a pas encore dévoilé son visage, elles ne peuvent pas être des moteurs de développement. Les festivités du mois de la femme, ce n'est pas pour ces visages tristes qui n'ont rien à faire de la politique. Du camp des déplacés de Bounia, José Deschartemeng, Radio Okapi.
Merci José. Au deuxième jour ce vendredi de l'audience foraine, on appelle dans l'affaire qui oppose le ministère public à 8 ex-combattants issus des milices APCLS et Nyatura. Il s'agit de prévenus Mungoyeko et consorts poursuivis pour crime de génocide par la cour militaire du Katanga. Ils étaient condamnés à perpétuité au premier degré. Pour la Munanga, nous en dit plus.
Ce vendredi, la cour poursuit avec l'instruction du dossier. Hier, les avocats des prévenus ont sollicité un renvoi afin de mieux s'imprégner du dossier pour mieux défendre leurs clients. Le ministère public a aussi introduit une requête sollicitant la participation dans ces procès des experts de la police scientifique qui avaient été requis au premier degré afin de procéder aux fouilles pour rechercher les cadavres. Ainsi, la cour militaire du Katanga a accédé à la demande des avocats des prévenus ainsi qu'à la requête du ministère public. Pour rappel, tout est parti d'une découverte de fosses communes dans la base militaire de Kamina. Cette découverte a été le fruit d'une enquête conduite en septembre 2016 par l'équipe de l'auditorat militaire garnison de Kamina à la suite des affrontements qui avaient opposé deux factions des ex-combattants cantonnés dans la base militaire de Kamina. C'était dans la nuit du 21 au 22 septembre 2016. Il s'agit des anciens miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, FRPI, et des ex-combattants issus des milices APCLS et Nyantura. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la démission depuis hier du directeur du cabinet du Premier ministre, Michel Soumou, a déposé sa lettre de démission auprès du vice-premier ministre du Transport et Voies de Communication, José Makila, qui assume l'intérim du Premier ministre avec coup de pied à la présidence de la République. Contacté par Radio Okapi, Michel Soumou s'est réservé de tout commentaire. Sachez que lundi dernier, dans la soirée, une altercation dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux a eu lieu à la primature entre le directeur du cabinet démissionnaire et le conseiller technique spécial. S'en est suivi des déclaration pas très courtoise dans la presse. Innocent Olinga nous explique.
La situation s'est avérée délétère depuis un certain temps à la primature. Mais la goutte d'eau qui a débordé les vases, c'est cette altercation entre les directeurs des cabinets Michel Soumoué et les conseillers techniques spéciaux Kilbaka Ahmed à cause du refus par les directeurs des cabinets de signer un ordre de décaissement pour un voyage de ces derniers en Europe, voyage jugé privé par les directeurs des cabinets. Bien avant, ce sont les conseillers et les chargés d'études qui s'en étaient pris à Michel Soumoué, l'accusant de détourner leur salaire. Et tout s'est passé sur les réseaux sociaux. Interrogé mercredi dernier par notre consoeur, la radio Top Congo FM, Michel Soumoué ne s'est pas empêché de déplorer le caractère pléthorique du décret du Premier ministre Bruno Tshibala nommant près de 800 personnes dans son cabinet pour une enveloppe salariale budgétisée d'une centaine d'agents. Interviewé à son tour par le magazine Jeune Afrique, le Premier ministre Bruno Tshibala justifie ces nombres par ce qu'il qualifie d'innovation de son côté socialiste et estime que son directeur de cabinet a craqué en faisant pareille déclaration. Et Bruno Tshibala de conclure, je le cite, « Partout dans le monde, lorsqu'un grave manquement est commis, il altère les rapports et invite à prendre des décisions qui s'imposent. » Fin des citations.
Autre nouvelle, la chambre d'appel de la CPI a rejeté les appels interjetés par Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Manguinda et Fidel Babala et Narcisse Arido à l'encontre de leur condamnation dans l'affaire d'atteinte à l'administration de la justice. La juge présidente de cette instance a communiqué les décisions sur ces appels hier au cours d'une audience. Patrick Chiboui, chargé de communication au bureau de la CPI RDC, a rapporté ses décisions à la presse à Kinshasa, suivant un extrait de ses propos recueillis par Honoré Missinga Kalala.
Aujourd'hui, la Chambre d'appel a rendu ce jugement sur le verdict et la peine dans l'affaire Jean-Pierre Bemba et les autres qui avaient été reconnus coupables conjointement avec lui des atteintes à l'administration de la justice. Et la Chambre d'appel a donc rejeté les appels qui avaient été interjetés par tous les 5 accusés à l'encontre de leur condamnation. Ça, c'est un élément qui ressort de ce jugement. Elle a donc confirmé les condamnations pour la plupart des accusations. Toutefois, la Chambre d'appel a donc acquitté M. Bemba, M. Kilolo et M. Mbangenda de l'accusation consistant à la production d'éléments de preuve faux en connaissance de cause, parce que la Chambre a estimé que cette infraction ne s'applique qu'à la présentation de preuves sous forme de documents et non à l'audition de témoins. Et en conséquence, étant donné que les autres accusations demeurent, c'est la raison pour laquelle la Chambre d'appel donc a confirmé les condamnations qui étaient prononcées contre eux.
Contacté par Radio Okapi depuis la haie, il a suivi personnellement la communication de cette décision. Maître Mikilolo se réjouit de cette nouvelle, la qualifiant de victoire partielle. Il affirme toutefois que le combat pour être totalement blanchi dans cette affaire n'est pas encore terminé. Maître Mikilolo, avocat au barreau de Bruxelles, expert sur les questions de droit international, a été joint au téléphone par Pelé Kipelamondo.
La chambre d'appel vient de m'acquitter moi-même, Jean-Pierre Bemba, Jean-Jacques Mbangenda, de 14 chefs d'accusation. Ce qui veut dire, en termes pratiques, que l'affaire est à nouveau renvoyée devant la chambre de première instance, qui va devoir à nouveau reprendre une nouvelle décision, non pas sur la culpabilité, mais sur le taux de la peine. Ça veut donc dire pour nous que c'est une victoire partielle. Le combat pour être totalement blanchi de cette affaire n'est pas encore terminé. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une victoire partielle sur le bureau du procureur qui avait demandé que chacun de nous soit immédiatement retourné au centre de détention pour 5 ans. Donc il y a eu en tout cas un désaveu aujourd'hui par la chambre d'appel du réquisitoire du procureur.
Célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Hier, près de 700 femmes et quelques hommes ont participé à une marche et à une course à pied dans le domaine présidentiel du parc animalier de Lancelle à Kinshasa. Le coup d'envoi a été donné par l'épouse du chef de l'État en présence du ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, du ministre du Genre, des diplomates ainsi que des représentants des agences des Nations Unies. Ce reportage est signé Jean-Pierre Ilali Koko.
Maman Olive Lembe a donné le coup d'envoi à 10h05 au kilomètre 19 du parc. La cohorte s'est ébranlée sur une distance de 8 km jusqu'au point d'arrivée. Mais auparavant, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safou, et son homologue des sports, Papi Nyango, ont circonscrit l'événement. Les deux intervenants ont mis l'accent sur le sens de la manifestation. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée dédiée à la femme, avec un point d'honneur fait à la femme rurale. Selon Papi Nyango, cette marche met en exergue l'effort et le courage de la femme rurale, dont le travail de chaque jour nourrit sa progéniture et procure le revenu du ménage. Un fait à signaler, la première dame a couvert sans répit les 8 km à pied, à l'instar des autres compétitrices. Les premières marcheuses ont franchi la ligne d'arrivée à 12h30 au centre récréatif de Kisangani, prévu pour la circonstance. Maman Olive a remis, à titre symbolique, semences et outils aratoires aux femmes rurales et des prix aux 50 premières gagnantes de l'épreuve.
Toujours dans le cadre de la célébration de la journée de la femme à Kananga cette fois, l'Union congolaise des femmes de médias et l'unité correction du bureau de la MONUSCO ont organisé des activités de sensibilisation et de récréation à la prison de la ville en faveur des détenues femmes. À cette occasion, ces détenues de la prison de Kananga ont notamment joué au Nzango. Joël Bufengo nous dit ce qu'a été cette journée.
Sur environ 800 détenus, la prison de Kananga compte 26 femmes. C'est à elle que l'UCOFEM a pensé en cette journée internationale des femmes. La responsable provinciale de cette organisation, Irène Bombo, leur a notamment demandé de garder leur dignité malgré leur détention.
C'est une façon pour nous de consoler ces femmes qui sont détenues ici en prison, donner à ces femmes de l'espoir de retrouver un jour leur ménage. Mais aussi, nous avons pensé sensibiliser ces femmes sur les droits fondamentaux des femmes parce que là, elles doivent conserver leur dignité même étant ici en prison.
Le directeur de la prison s'est réjoui de l'organisation de ces activités, expliquant qu'elles entrent dans le cadre de la réinsertion sociale des femmes détenues.
Les activités se sont passées dans une ambiance très confortable. Ça entre dans le cadre de la réinsertion sociale. Ce que venait de faire l'organisateur, pour nous, c'est C'est vraiment grandiose.
Une avocate s'est adressée à ces femmes pour leur parler notamment de leurs droits. Après quoi, l'équipe de Nzango des femmes détenues a affronté une équipe de femmes venues de l'extérieur. Les détenues l'ont emporté largement. Lucofem a remis quelques biens aux femmes détenues, notamment du lait et des savons. Cette manifestation a été soutenue par l'unité correction de la MONUSCO.
Actualité Afrique Monde.
Les écoles guinéennes sont fermées depuis près d'un mois suite à une grève des enseignants. Hier, le président Alpha Condé venait présider la journée internationale des droits des femmes au Palais du Peuple, au siège de l'Assemblée nationale à Conakry, a été hué par des centaines de femmes au cri de « nos enfants à l'école ». Il s'est finalement adressé à un public clairsemé puisque la majorité des femmes avaient quitté la salle pour boycotter son discours qui leur était pourtant destiné. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson poursuit sa tournée sur le continent africain après l'Éthiopie, se rend à Djibouti ce vendredi, une visite d'une journée avant de repartir pour le Kenya. Il s'agit de sa première tournée africaine, une tournée dominée par les relations commerciales avec l'Afrique ainsi que la sécurité. Notez que c'est à Djibouti que se trouve la plus importante base militaire américaine sur le continent. Par le biais du diplomate sud-coréen Kim Jong-un a proposé à Donald Trump de le rencontrer. C'est que le président américain a accepté hier, d'après le responsable sud-coréen en visite à Washington. Si la rencontre qui pourrait être organisée d'ici le mois prochain, le mois de mai, a lieu, il s'agirait de la première entre dirigeants de deux pays.